Chapitre 8, nous allons lire les 6 premiers versets. Chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Voyons d'abord cela. Jusqu'ici, notre épître a mis en lumière la grandeur de Jésus-Christ par une comparaison avec les anges. Jésus-Christ est de beaucoup supérieur aux anges, par une comparaison avec Moïse aussi, et avec les souverains sacrificateurs du sacerdoce lévitique d'autrefois. Puis, l'Épître nous a présenté la personne mystérieuse de Melchisédek, venant vers Abraham, le dépositaire des promesses, pour annoncer le dessein de Dieu et la venue d'un grand souverain sacrificateur dont lui-même, Melchisédek, est l'authentique figure, non pas le type, mais l'authentique figure. Il scelle cette annonce par un serment. Dieu jure qu'il enverra le souverain sacrificateur éternel qui accomplira les promesses, et le serment se concrétise par une première sainte scène, ce qui montre bien qu'il s'agit de la sacrificature, un sacrifice, la sainte scène. Dans le chapitre 8, nous allons trouver les conditions dans lesquelles s'exerce toujours l'œuvre sacerdotale de Jésus. Cette œuvre s'exerce dans un sanctuaire céleste et non pas terrestre. Et cela dans le cadre d'une nouvelle alliance. Il a fallu une nouvelle alliance. L'ancienne alliance a pris fin. Il a fallu une nouvelle alliance, c'est-à-dire un nouveau contrat entre Dieu, alliance est un contrat, entre Dieu et les hommes par l'intermédiaire d'un médiateur. Et ici, le médiateur, ce n'est plus Moïse, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est au ciel, donc, et auprès de Dieu, que s'exerce maintenant l'activité de Jésus-Christ en tant que ministre du sanctuaire céleste. Ministre, vous savez que il y a quelque temps, quelques années, quelques dizaines d'années, le pasteur, par exemple, d'une assemblée était appelé aussi le ministre du culte ou le ministre de l'assemblée. Ministre parce qu'il exerce un ministère. Maintenant, on n'emploie plus ce terme-là, mais enfin, nous comprenons ce qu'il veut dire. Le ministre, celui qui officie, si vous voulez. Alors, cela dans un sanctuaire céleste. Et ce sanctuaire céleste a donc une entière réalité, et il n'est pas un symbole. Là encore, on se trouve en présence de ces erreurs d'interprétation, et ces erreurs d'interprétation sont dues toujours à une foi bien insuffisante. Il ne s'agit pas d'un symbole. Il y a des gens qui ont écrit ça, n'est-ce pas ? Sanctuaire céleste est un symbole. Alors, le Seigneur Jésus est un symbole aussi. Parce que on ne voit pas le Seigneur faire quelque chose au milieu d'un symbole. Si moi je vous disais, tout à l'heure vous allez souper, eh bien, on va vous faire souper dans un symbole. Vous préférez un bol qu'un symbole, n'est-ce pas ? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas ? On dit des choses qui n'ont pas de sens. Le Jésus-Christ, il est esprit maintenant pour nous sur la terre, mais il est là avec son corps. Il est là-haut, assis à la droite de Dieu, mais il est là avec un corps. Il reviendra avec ce corps. Un corps qui ne peut plus mourir. Il l'a dit, j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles et il ne peut plus mourir. Bon, donc il est là avec son corps de ressuscité, son corps qui sera vu quand le moment apparaîtra. Et alors, il est dans un sanctuaire qui n'est pas un symbole. Parce qu'un symbole, c'est quelque chose qui figure, n'est-ce pas ? Un symbole, ce sont des mots, par exemple, des phrases, des mots, qui figurent quelque chose. Alors, je vois pas que le Seigneur Jésus-Christ soit dans les lieux célestes avec des mots simplement, n'est-ce pas ? Des symboles, qui font symbole. Il y a un sanctuaire qui est une entière réalité. Je relis le début de notre chapitre. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Est-ce qu'on dit ça d'un symbole ? Et du véritable tabernacle qui a été dressé, il a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Alors, est-ce que nous voulons recueillir la parole de Dieu parfois, ou si nous interprétons, nous, parce que nous ne comprenons pas qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a un sanctuaire dans les cieux. Oh, c'est un symbole. D'ailleurs, les cieux, ça n'existe pas. Les cieux, c'est un principe. On nous détruit tout. Chers amis, recevons la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous avons vu en étudiant l'Apocalypse qu'il y a une cité réelle, bien réelle. Eh bien là, nous avons un sanctuaire, il nous est parlé d'un sanctuaire qui est bien réel puisque c'est le véritable tabernacle et qui a été dressé, il est dressé par le Seigneur et non par un homme. Le texte nous dit donc que Moïse a eu la représentation de ce tabernacle sur la montagne et qu'il lui avait été dit « Regarde ». Dieu a dit à Moïse « Regarde ». Regarde avec ses yeux, il a regardé. Regarde et fais. Fais le tabernacle du désert. Fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le ministère actuel de Jésus-Christ ne peut pas s'exercer sur la terre. Il ne peut pas s'exercer sur la terre. Sur la terre, Jésus-Christ a fait tout ce qu'il fallait faire. La partie du dessein de Dieu qui devait être réalisée sur la terre, et quand ça a été fait, il a dit tout est accompli. Il n'y a plus rien à accomplir sur la terre. plus que des choses à accomplir dans le ciel. Mais sur la terre, c'est fini. Tout est accompli. Jésus avait fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, il fallait qu'il retourne au Père. Et il est retourné. Le sacerdoce du Seigneur, le ministère actuel du Seigneur, ne peut s'exercer qu'auprès de Dieu. Qu'auprès de Dieu, à la droite de Dieu. Le sacerdoce terrestre, qui était prévu et défini par la loi de Moïse, avait un caractère figuratif et prophétique. Il nous est dit que ce culte présentait l'image et l'ombre des réalités célestes. Je relis cela. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Jésus ne peut pas être sur la terre, il ne serait pas sacrificateur. Il n'est pas sorti de la tribu de Lévi. Puisque ce sont là ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors donc, il y a un sanctuaire, le vrai sanctuaire, le véritable sanctuaire est dans le ciel. Et celui de la terre était une copie pour le temps des ombres, pour le temps de la figuration au milieu du peuple d'Israël. Vous voyez que le peuple d'Israël ne pouvait pas directement avoir accès à un sacerdoce. D'ailleurs, il n'aurait pas saisi. Il fallait que Jésus fût incarné avant. Puis là, il y avait un long moment de préparation. Alors, ce qui devait être accompli sur la terre l'a été parfaitement. Jésus est retourné vers son Père, et cela à l'avantage de l'Église, à notre avantage. Jésus avait dit: il vous est avantageux que je m'en aille. Ne cherchez pas à me retenir ici, n'est-ce pas, ou à désirer de tout votre cœur que je reste ici. Il vous est avantageux que je m'en aille. Sur la terre, Jésus-Christ, nous l'avons lu, ne serait pas même sacrificateur, car il ne peut pas être placé dans les conditions de la loi de Moïse. N'étant pas, c'est la première chose à signaler, un descendant de Lévi. D'autre part, Jésus n'aurait aucune offrande sur la terre. Il n'aurait aucune offrande légale à présenter. Aucune offrande légale. Il ne va pas faire immoler des animaux, faire offrande d'animaux sur l'autel. Il n'a pas d'offrande légale à présenter. Son ministère, à lui, ne peut être que céleste. Bien sûr, Jésus-Christ s'est offert lui-même. Il est donc souverain sacrificateur et victime, tout à la fois. Ça, c'est particulier à lui. Son offrande, c'est celle de son corps. Elle s'est faite sur la terre. Sa mort est tout d'abord à regarder dans les évangiles comme un événement historique. Cependant, cet événement ne reste pas enfermé dans le temps et l'espace. Du fait qu'il est historique, il s'est produit au milieu, dans le temps et l'espace. Nous, sur la terre, n'est-ce pas, nous sommes régis par le temps et l'espace. Il s'est produit là, donc, au milieu des hommes, dans le temps et l'espace. Mais il ne reste pas, ce sacrifice de Jésus ne reste pas enfermé, prisonnier du temps et de l'espace. La mort du Fils éternel de Dieu sort des événements de la terre. Il sort des événements purement humains et apparaît comme un grand acte de Dieu dont toutes les conséquences se trouvent enregistrées dans le ciel, hors du temps et de l'espace. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire avec raison, « Moi, j'ai été crucifié avec Christ. » Mais voyons, apôtre Paul, on ne t'a jamais percé les mains et les pieds, on ne t'a jamais placé sur une croix, tu n'es pas mort sur une croix, pourquoi dis-tu que tu as été crucifié? Vous voyez, littéralement, ça n'a pas de sens. Et faire attention qu'il y a des choses, n'est-ce pas? On prend la parole littérale, c'est pas, mais on sait qu'elle a un sens autre que le sens apparent. Quand Paul dit cela, il veut dire, eh bien, la crucifixion de Jésus-Christ m'a marqué, a marqué l'homme que je suis, j'en ai reçu toutes les conséquences, et c'est comme si moi, j'avais été crucifié à la place de Christ. Ou si, lorsque Christ a été crucifié, j'étais là aussi, j'étais crucifié en même temps que lui. Voilà, j'ai reçu toutes les conséquences de cette crucifixion de Jésus. Et chacun de nous doit dire cela, doit savoir cela. Chacun doit dire avec raison et savoir ce que ça signifie, j'ai été crucifié avec Jésus. Il y a eu la réalité terrestre des souffrances et de la mort de Jésus. Et il y a aussi et surtout maintenant la réalité céleste qui découle de la réalité terrestre. Il y a une réalité céleste qui est celle des conséquences éternelles de l'acte terrestre par lequel Jésus a offert son corps en sacrifice. Les conséquences éternelles. Ces conséquences sont la source de toute grâce venant de Dieu. Tout découle, quand on dit que tout découle de la croix, c'est-à-dire que tout vient en tant que conséquence, et cela descend des cieux maintenant, ça ne vient pas du mont Golgotha directement à nous, tout descend des cieux, ce sont les conséquences de l'offrande de Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, Jésus, établi dans un ministère supérieur à tout autre, agit en qualité et en tant que médiateur de la nouvelle alliance, cette alliance qui surpasse l'ancienne, parce qu'elle repose sur de plus hautes promesses, celle de la purification, celle de la justification, celle de la régénération des hommes de foi, et celle, enfin, d'un repos éternel. Un repos qui n'aura plus à être reconsidéré, il ne pourra plus être altéré, l'héritage, n'est-ce pas, que nous allons recevoir est un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souiller. Le repos éternel. L'apôtre Paul a fait d'ailleurs la même comparaison que nous avons ici, en d'autres termes, et que nous avons ici dans les Hébreux. Nous allons relire cette comparaison, elle est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3. Chapitre 3 et verset 7. Voyez-vous, il va comparer le sacerdoce ancien, le sacerdoce lévitique, avec le sacerdoce actuel, il va comparer l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit, ne sera-t-il pas plus glorieux ? Voyez, pour lui, il y a eu le ministère de Moïse, autrefois, sous l'empire de l'ancienne alliance, puis maintenant, sous l'empire de la nouvelle alliance, il y a ce qu'il appelle le ministère de l'Esprit, qui est bien plus glorieux. Si le ministère de la condamnation, voilà comment maintenant il appelle l'ancien ministère, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, celui de la nouvelle alliance, est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Voilà la comparaison que Dieu fait entre le ministère d'autrefois, ministère sacerdotal d'autrefois, et le nouveau ministère, celui de la nouvelle alliance. Alors, nous reprenons notre lecture du chapitre 8 au verset 7, et nous irons jusqu'à la fin de ce chapitre. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Vous voyez, c'est ce dernier verset qui m'a fait dire, quand nous étions à l'introduction, que l'Épître aux Hébreux a été écrite avant l'an 70, parce que l'an 70, avec la destruction du Temple, et la dispersion du peuple d'Israël marque bien la fin de l'ancienne alliance. Là, quand l'épître aux Hébreux est écrite, la fin n'était pas encore là. On faisait encore des sacrifices. Alors, nous avons situé la rédaction de l'épître à l'an 67. C'est à peu près ça, même si on se trompe un peu, c'est peut-être 66... mais ça, c'est certainement là, tout près de l'an 70. Alors là, c'est ce qui fait que l'auteur dit, en disant « Alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne, « Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » L'ancienne alliance n'avait pas encore tout à fait disparu. Et il y avait donc ceci, c'est que l'ancienne alliance continuait encore, et que la nouvelle alliance avait déjà pris naissance, avec la Pentecôte. Alors il y avait ça, il y avait cette superposition, une alliance qui allait vers sa fin, une autre qui commençait. Et alors, maintenant que nous arrivons au temps de la fin, nous allons voir l'inverse. Nous allons voir la nouvelle alliance, celle de l'Église, alliance de la grâce, aller à sa fin, elle va prendre fin. Quand il y aura l'enlèvement de l'Église, c'est fini. C'est fini la nouvelle alliance. C'est fini, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église. Et l'ancienne alliance va reprendre cours avec les juifs et le temple qui sera reconstruit. Hein, voyez-vous. Alors, il y a eu ça, et il va y avoir ça maintenant. Hein. La nouvelle alliance, elle commençait, et puis maintenant, voilà, elle s'achève. Et l'ancienne va reprendre un petit peu. Hein. Voilà. Jérémie, le prophète, avait en effet prophétisé, annoncé une nouvelle alliance. Ceci se trouve au chapitre 31 de son livre. Nous nous y reportons. Jérémie, chapitre 31 et verset 31 également. Verset 31, nous lisons jusqu'à verset 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je les l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous avons donc dans le chapitre 8 des Hébreux une citation très exacte de ce passage. Et c'est très important, voilà Jérémie, un grand prophète, qui annonce la venue d'une nouvelle alliance. Combien y a-t-il d'alliances, de grandes alliances entre Dieu et les hommes? Eh bien, il y a là des gens qui aiment compliquer les choses et puis qui vous en découvrent 7, 8, 9, 10, je ne sais pas combien. Il y en a exactement 5. Il y a 5 grandes alliances. Quelles sont ces grandes alliances? La première, l'alliance avec Noé. Il y a toujours un médiateur. Dieu ne va pas traiter avec la foule du peuple, n'est-ce pas? Il va traiter avec quelqu'un qui représente le peuple et qui va être l'intermédiaire entre lui et le peuple. Alors, l'alliance avec Noé, et qui intéresse toute la vie sur la terre, aussi bien la vie des animaux, des plantes que celle de l'homme. C'est une alliance avec la vie. Il y a toujours un signe attaché aux alliances, toujours un signe. Quel est le signe? C'est l'arc-en-ciel. Je mettrai mon arc dans la nue, je le regarderai et je me souviendrai de mon alliance avec la vie. Bon, alors ça, la première alliance. La seconde alliance, qu'est-elle? Abraham, oui. Abraham, alliance avec Abraham. Le signe de cette alliance, c'est la circoncision. La circoncision. La circoncision. Hein? Alliance avec Abraham qui reçoit les promesses. Troisièmement, celle que nous appelons l'ancienne alliance. L'alliance avec Moïse. Moïse. Et la loi, la loi intervient comme des clauses de l'alliance. L'alliance, je vous ai dit, est un traité, un contrat. Et la loi forme l'ensemble des clauses de cette alliance et quel est le signe de cette alliance? Eh? Non.
Quoi? La quoi? L'arche de l'alliance?
Non.
C'est un moyen, ça. Comment? J'entends pas bien.
Non, ce sont les clauses de l'alliance.
Ah, oui, on ne le trouve pas souvent, on ne le connaît pas, celui à ce signe-là, c'est dommage. Comment? Dites-le. Hein? Quoi?
C'est pas le serpent des reins. Ça a été un procédé pour... Non. Non.
Comment?
Non. Non. Alors ça va pas. Alors je vais vous le dire. Il vaut mieux que je vous le dise parce que je vois que vous le trouvez pas. Le signe de cette ancienne alliance, c'est le sel. Je mets le sacrificateur devra mettre du sel sur toutes les victimes. Tel sera le signe de mon alliance. Ah. Je vous les ai écrits comme ça, n'est-ce pas? Bon, c'est le signe. Et c'est pourquoi Jésus plus tard dira, il faut que tout homme soit salé de feu. Comprenez? Il va s'emparer, lui, de ce signe, le sel, pour dire, n'est-ce pas, dans la nouvelle alliance, il faut que tout homme soit salé de feu, c'est-à-dire que il est le feu de l'esprit. Il est le feu de l'esprit, et ce sera pour lui, n'est-ce pas, quelque chose qui correspondra au signe de l'ancienne alliance. Bon, sur toutes les victimes, il fallait donc du sel, c'est le sel. La quatrième alliance, quelle est-elle? Nous avons dit qu'il y en avait cinq, en étions à trois. Hein? Jacob, non. Qui ça? Hein? David, oui, David, c'est vrai. Alliance avec David, pour la royauté. Il est dit dans l'Écriture que Dieu a fait une alliance en tout point bien réglée. En tout point bien réglée, une alliance avec David. Et quels sont les termes de cette alliance? J'établirai sur son trône son fils, l'un de ses fils. Et ce fils, je le bénirai. Hein? Bon, alors, donc, alliance avec David, et quel est le signe de cette alliance? Hein? De la royauté, quel est le signe de cette alliance avec David? Comment? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà, n'est-ce pas? Tel est le signe. Le signe de cette alliance, la royauté. La troisième alliance était une alliance pour le sacrifice, pour le sacerdoce. La quatrième alliance est une alliance pour la royauté. Il faut que dans le plan de Dieu, tout prépare la nouvelle alliance. Puis la cinquième alliance, c'est la nouvelle alliance. Hein? Voilà. Et la nouvelle alliance, j'ai fait en sorte tout à l'heure de ne pas me trahir trop tôt, et j'ai fait en sorte d'éviter de parler du signe. Mais quel est le signe de cette nouvelle alliance? Comment? Non, c'est pas le signe de la croix. La croix, c'était une voie de Dieu nécessaire. Le signe de la nouvelle alliance, c'est l'amour. Quand Jésus a dit « il faut que tout homme soit salé de feu », j'ai dit tout à l'heure le feu de l'esprit, mais je pensais le feu de l'esprit, le feu de l'amour. Le feu de l'amour, l'esprit apporte l'amour. L'amour. Et pourquoi c'est le signe? Parce que Jésus l'a dit. Jésus a dit ceci, « aimez-vous les uns les autres, à cela, à ce signe ». Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est l'amour qui va révéler, qui est le signe. Le signe a pour objet de révéler l'alliance. Vous comprenez? Alors voilà les cinq grandes alliances, donc, que Dieu a conclues. Alors, dans les cinq, il y en a une qui disparaît, puisque nous venons de le voir, n'est-ce pas? L'ancienne alliance, c'est-à-dire la troisième, l'alliance avec Moïse,
pour le sacerdoce, elle disparaît puisqu'il y a un sacerdoce nouveau et une alliance nouvelle. Alors, mais il en reste quatre. Alors, il reste l'alliance avec Noé. Elle n'est pas révoquée. Elle est toujours là. L'alliance avec la vie. Qu'à chaque fois que je vois l'arc-en-ciel, moi j'y pense.
Ah oui, on la regarde.
Ah, oui, faut toujours le regarder. Il faut toujours bénir le Seigneur. Bon, alors, deuxièmement, l'alliance avec Abraham. Mais l'alliance avec Abraham, c'est l'alliance avec le Père des croyants. Enfin, il ne faut pas oublier que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Hein? Alors, la circoncision, elle va disparaître, mais tout de même, Abraham reste le père des croyants, la postérité qui lui est promise. Eh bien, elle est là, c'est pas fini, les promesses faites à Abraham ne sont pas encore entièrement satisfaites. Elles n'en sont pas loin, mais elles ne sont pas encore entièrement satisfaites, elles vont l'être. Bon, la troisième, nous avons dit, elle est disparue. L'alliance avec la royauté, elle est toujours en cours, car Jésus va s'asseoir sur le trône de David, son père. Jésus va s'asseoir, c'est l'ange qui le dit à Marie. Enfin, il sera appelé fils du Très-Haut, il sera grand, il s'assiera sur le trône de David, son père. Bon, donc la royauté est réservée à David, cette alliance avec David pour la royauté n'est pas du tout éteinte. Et puis la nouvelle alliance, elle est toujours là. Si bien que sur les cinq, il nous en reste quatre. Il nous en reste quatre. Alors, puisque nous parlons de sanctuaire en ce moment, hein, nous allons montrer quelque chose d'intéressant. C'est que Moïse a vu le sanctuaire dans le modèle, là. Dieu lui a montré. Alors, il a vu notamment ce qu'on appelle la tente d'assignation, c'est-à-dire, si vous voulez, le tabernacle, hein, avec ses différentes couvertures, hein, il a vu tout ça. Et puis, il a vu qu'intérieurement, le tabernacle avait deux parties. Une première partie qui faisait les deux tiers, et la dernière partie, le dernier tiers, c'était le lieu très saint. Le premier lieu était le lieu saint, le deuxième, le lieu très saint. Entre les deux, il y avait un rideau. Enfin, bon, un rideau, c'est ce rideau qu'on appelle le voile déchiré. Enfin, allons le voir. Ce rideau-là qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et puis, à l'entrée de ce tabernacle, il y avait aussi un autre rideau, un rideau. Et le premier rideau à l'entrée du tabernacle était supporté par des colonnes. Combien de colonnes? Hein? Hein?
C'est 5 ou 4.
Un des deux, n'est-ce pas? Ben, c'était 5. Oui. C'était 5. 5 colonnes. 5 colonnes. Puis alors, le deuxième rideau, il était supporté par combien? Par 4. Est-ce que vous ne voyez pas donc que de ce tabernacle, lui aussi, nous enseignait quelque chose, n'est-ce pas? Le rideau supporté par 5 colonnes, c'est important, les colonnes, ça joue un grand rôle, les colonnes. Hein? Un grand rôle, 5 colonnes, les 5 alliances qui supportent le tabernacle, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de salut de Dieu, 5 d'abord. Puis, quand on arrive au lieu très saint, à la nouvelle alliance, il n'y en a plus que 4. Il n'y a plus que 4 colonnes. Les 5 sont devenus 4. Pourquoi ça? Pourquoi il n'a pas mis 5? C'était la même largeur. Le tabernacle n'avait qu'une seule largeur, pas dans toute sa longueur. Voyez-vous? Donc, c'est bien révélateur. Il y avait au début 5 colonnes, 5 alliances. Et quand on arrive au lieu très saint, pour la nouvelle alliance, il n'y a plus que 4 colonnes. Vous voyez que c'est bien ça. Bon. Alors, nous revenons à notre texte. Jérémie, donc le prophète, avait annoncé cette nouvelle alliance. L'ancienne alliance était la constitution, en somme, pour parler un peu le langage moderne, la constitution du peuple d'Israël. Elle réglait la vie sociale et religieuse de ce peuple. Le service de l'Éternel
y prenait une grande place. On peut même dire que toutes les clauses de cette alliance, et elles sont importantes, elles sont, nous les avons dans l'Exode, nous les avons dans le Deutéronome, les clauses de cette alliance étaient tournées vers l'Éternel. Et l'Épître aux Hébreux déclare que l'ancienne alliance n'était pas sans défaut. Ah, pourquoi elle n'était pas sans défaut? Dieu ne fait-il pas, ne sait-il pas faire des choses parfaites? Comment peut-on comprendre que Dieu ait donné à son peuple une constitution imparfaite, une constitution qui présentait des défauts? Nous l'avons lu. Ah, bon. Eh bien, l'ancienne alliance n'était que l'ombre de la pensée divine et seulement l'image de la réalité du tabernacle céleste. Il ne pouvait par conséquent y avoir entre elle et Dieu aucune continuité de nature. L'Épître, notre Épître déclare aussi au chapitre 9 et au verset 10, reportons-nous à ce verset, chapitre 9 et verset 10, il faut prendre la phrase en cours de route, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Des ordonnances charnelles. C'est-à-dire que les dispositions qui étaient dictées par Dieu à Moïse pour ce temps-là, pour le temps d'Israël, allaient avoir d'heureuses conséquences sur le peuple d'Israël. Bien sûr, le peuple d'Israël, malheureusement, est sortie de l'Alliance, a méprisé l'Alliance, mais elle était destinée, quand même, et puis il faut dire que quand même, il y a eu des Israélites qui ont obéi de leur mieux à l'Alliance, et en tout cas qui sont arrivés à la nouvelle Alliance, c'est-à-dire la venue de Jésus, en tant que personne de foi, comme le vieux Siméon, comme Anne la prophétesse, par exemple. Mais l'ancienne alliance n'était donc que l'image de la réalité céleste. Il ne pouvait pas y avoir entre cette image et Dieu une continuité de nature. L'Épître déclare donc qu'elle avait été imposée uniquement pour un temps de préparatoire, jusqu'à une époque de réformation. Et en somme, cette loi, cette ancienne alliance, était un pédagogue, dira Paul, pour aller jusqu'à Christ, c'est-à-dire un premier enseignement. Le pédagogue, c'était celui qui préparait l'enfant à l'enseignement majeur qui allait lui être donné après lui. Il préparait, c'était un premier instituteur qui préparait l'enfant à recevoir l'enseignement complet et satisfaisant qui allait lui être donné par avant. Et le pédagogue, lui, il usait de toutes sortes de moyens, de petites images, pour faire comprendre bien des choses aux enfants, n'est-ce pas? Mais il n'enseignait pas, lui, il n'apportait pas l'enseignement définitif. Voilà la comparaison que Paul fait. L'ancienne alliance était un pédagogue pour aller à Christ, afin que vienne la justification par la foi. En quelque sorte, l'ancienne alliance prophétisait, en somme. Elle prophétisait. Et elle appelait une nouvelle alliance par le moyen du Messie. Le Messie était tellement annoncé dans l'Ancien Testament, enfin, que quand il allait venir, ce Messie, les choses allaient nécessairement changer. Alors voyons maintenant le contenu de la nouvelle alliance. Israël n'avait pas persévéré dans l'alliance du Sinaï. Et l'un des éminents caractères de notre Melchisédek, je veux dire de Jésus-Christ, l'un des éminents caractères de notre Melchisédek et qu'il demeure éternellement, et il en est de même de ses rachetés. Ce qu'est le souverain sacrificateur, c'est ceux en faveur de qui il exerce son sacerdoce, sont comme lui, sont appelés à devenir, à être comme lui, n'est-ce pas, ne pas connaître la mort, vivre éternellement. Mais, faisons une objection, la nouvelle alliance a-t-elle réussi à produire l'obéissance persévérante attendue par Dieu, ce que l'ancienne alliance n'avait pas pu faire, n'est-ce pas? Nous avons lu qu'il n'avait pas persévéré dans l'alliance de Dieu, il n'avait autrement dit pas obéi, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Église qui est dans la nouvelle alliance a bien persévéré dans l'alliance de Dieu? Oh là, voilà un problème terrible. Voilà un problème terrible. Parce que maintenant, nous voyons bien qu'on s'écarte gravement, dangereusement de l'alliance. Et l'esprit n'est plus à l'alliance, malheureusement. En bien des cas et des circonstances, l'esprit n'est plus à l'alliance. On pense aux procédés. Aux procédés, on utilise des procédés. On pense aux procédés qu'on va mettre dans l'Église pour essayer d'intéresser les gens du dehors, essayer d'agrandir le nombre des chrétiens, n'est-ce pas? Oui. Voilà ce qu'on fait, des procédés. Mais nous ne sommes plus dans l'esprit de l'Alliance. Alors, est-ce que nous ne sommes pas comme les Israélites? Pire même que les Israélites, parce que les Israélites n'avaient pas encore le Messie. Et nous l'avons. Ah, voilà une objection terrible. Les chrétiens ne sont-ils pas, eux aussi, en défaut d'obéissance? Ne manquent-ils pas, eux aussi, de persévérance? Parce que s'ils apportent leur confiance à toutes sortes de procédés, qu'ils vont chercher un peu partout, qu'ils acceptent, parce que le diable les leur propose, eh bien, c'est qu'ils manquent de persévérance. Ils ne croient plus suffisamment comme il faut en la promesse. Alors la cause de cette nouvelle instabilité provient de ce que les chrétiens n'entrent pas délibérément dans le dispositif spirituel de la nouvelle alliance. Voilà la cause. Ils n'entrent pas dans une réelle possession de la grâce de Dieu et de ses bénédictions. Et je voudrais à cette occasion relire dans le chapitre 1er des Éphésiens, Éphésiens chapitre 1 verset 3, relisons ça. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, est-ce que nous le sommes? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Est-ce que nous avons vraiment, nous faisons montre de cette sagesse et de cette intelligence? Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Est-ce que nous sommes maintenant vraiment la louange de la gloire de Dieu ? Chers amis, quand on ne met pas, par exemple, pour la prière, un voile sur la tête, je parle des sœurs, hein, eh bien, on ne peut pas dire qu'on est obéissant. On ne peut pas dire, pas le dire. Je le dis pour la prière, hein, on peut pas le dire. C'est toujours un petit détail, c'est un petit détail, enfin, on le considère comme tel. C'est quelque chose, n'est-ce pas, qui achoppe. Là, on en parle souvent, parce que ça achoppe. Mais il y a d'autres choses qui achoppent. Et alors, nous ne faisons pas montre de cette sagesse et de cette intelligence dont nous parle ici l'épître aux Éphésiens, parce qu'elle nous dévoile le but de Dieu, l'intention de Dieu. Nous ne faisons pas montre de cette intelligence spirituelle, nous ne sommes pas dans une pleine obéissance et nous ne sommes pas à la louange de la gloire de Dieu. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Et c'est une chose tout de même qui est préoccupante. Parce que, en somme, nous voyons maintenant que les chrétiens, et je parle des chrétiens évangéliques, en arrivent à raisonner, on raisonne encore, et on sait bien qu'on ne peut rien faire par le raisonnement. Ils raisonnent, ils ravalent l'évangile à une loi extérieure, comme autrefois. Et ils ne le reçoivent pas, cet évangile, comme une loi intérieure inscrite dans les cœurs. Ils ne vivent pas selon l'esprit, ils ne vivent pas conduits par l'esprit quand ils font des choses qu'ils décident eux-mêmes et qu'ils ont vu faire au monde. Ils en décident eux-mêmes. Il y a des choses qui se font dans le monde, n'est-ce pas ? Il y a des festivals dans le monde. J'ai lu dans une revue du monde, j'ai lu qu'il y avait actuellement une multiplication des festivals, l'été surtout, dans pas mal de villes de France et d'ailleurs. Eh bien, dans l'Église aussi, il y a des festivals. Allez, on fait des festivals. On fait des festivals et on a des artistes. C'est une chose scandaleuse. Une chose scandaleuse. C'est pas la peine de taire la chose, il faut au contraire la dire. Donc, on ne vit pas conduit par l'esprit quand on fait ces choses-là. On perd de vue, ou on méconnaît que les lois de Dieu, c'est-à-dire sa volonté exprimée, doivent être présentes en notre esprit, c'est ce que le texte nous dit, j'écrirai mes lois dans leur esprit. Et nous marchons avec notre petite caboche d'homme. Nous ne consultons pas les lois qui sont écrites dans notre cœur, dans notre esprit. Nous nous informons de savoir combien ça coûte à la chaîne là pour faire des émissions. Nous nous informons des prix, de ce qu'il faut. Nous allons chercher des spécialistes pour faire de la vidéo et toutes sortes de fourbis comme ça, n'est-ce pas ? Et nous prétendons que le Seigneur sauve des âmes avec la vidéo. La vidéo qui est un moyen par lequel le monde déverse toutes ses horreurs. Parce que, allez voir un petit peu les titres et les programmes qui sont dans les maisons de location des cassettes vidéo. Ah, vous y verrez de belles choses. Le grand travers consiste à revenir aux conceptions d'une religion. Et nous avons toujours cette manie de revenir aux conceptions d'une religion. Nous oublions qu'il ne s'agit pas de religion, il s'agit de relation avec Dieu et par Jésus-Christ, et il s'agit là de s'attacher au ministère sacerdotal que Jésus exerce dans le tabernacle céleste. Et si nous regardons dans le tabernacle céleste Jésus opérer pour nous en notre faveur, nous n'irons pas voir ce que le monde est en train de fabriquer, de faire, n'est-ce pas, pour sa perte. Si les lois de Dieu ne sont pas extérieures, mais qu'elles sont intérieures, les lois de Dieu sont écrites dans les cœurs, nous l'avons lu, Jérémie nous le dit, et l'Épître aux Hébreux nous le répète, elles sont écrites dans les cœurs, dans leur esprit. Alors si elles sont non pas extérieures mais intérieures, l'obéissance devient naturelle, volontaire et immédiate. Voilà comment on peut vivre la vie chrétienne. Hein, il faut que les lois soient vraiment là, présentes dans notre cœur. Et si elles sont dans notre cœur, notre volonté va pouvoir s'ajuster à ces lois, à la volonté de Dieu. Et alors là, nous allons avoir une obéissance, je vous dis, naturelle, qui va devenir naturelle, qui va devenir volontaire et immédiate. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit l'apôtre Paul. Pourquoi une simple cerise va-t-elle donner un cerisier? Avez-vous réfléchi à ça? Une petite cerise, et puis encore, ce n'est pas toute la cerise, c'est le noyau. Pourquoi un petit noyau de cerise, n'est-ce pas, qu'on a jeté comme ça, là, après avoir mangé la cerise, et puis au printemps suivant, on voit pousser une petite chose, deux ou trois ans après, il y a un cerisier. Pourquoi ça? Parce que la loi du cerisier est écrite dans le noyau. Ça ne vient pas de l'extérieur. Le cerisier n'est pas allé chercher quelque chose à l'extérieur. Il n'est pas allé consulter le monde pour savoir comment il allait faire pour être un cerisier. Et comment il allait multiplier les cerises. Il n'est pas allé dans le monde. Le cerisier est plus intelligent. Alors, la loi du cerisier est écrite dans le noyau. Avec une prodigieuse précision. Et la volonté de Dieu, les lois de Dieu sont écrites dans nos cœurs avec une précision extraordinaire. Pourquoi l'hiver passé, l'arbre sort-il de sa léthargie, se couvrant de fleurs et de fruits? Parce que la loi de son fruit est écrite en lui dans sa nature. Et si nous sommes chrétiens, nous avons changé de nature. Et dans la nature nouvelle, les lois de Dieu sont écrites. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. J'écrirai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Les lois de Dieu sont écrites là où il faut, dans notre esprit, dans notre nature. De même, si Christ habite en nous, il est là à pied d'œuvre. S'il habite en nous, on dit, moi, Christ habite en moi, je suis chrétien, Christ est en moi. C'est bien. Eh bien, on dit ça par la foi, c'est bien. Mais attention, on le dit par la foi, mais il faut que ça se traduise par quelque chose qui va se voir. Alors, si Christ habite en nous, Christ est là, avec son stylet, puis il a écrit les lois de Dieu. Il est venu, il a écrit, pas sur des tables de pierre, mais il a écrit sur la table de nos cœurs, il a écrit la loi de Dieu qui conduit notre volonté dans le sens de la volonté de Dieu. Et cette loi fait partie de notre nouvelle nature. L'homme nouveau, c'est ça. Il crée selon Dieu dans une justice sainte. Et une sainteté que produit la vérité. Le psalmiste savait déjà que là était la solution de la vie véritable. Le psalmiste savait, quand il dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Il savait que c'était là la condition. « Ta loi est au fond de mon cœur. » Alors, moi, je veux faire ta volonté. Pour que faire ta volonté, il faut que ta loi soit au fond de mon cœur. Si elle n'est pas là au fond de mon cœur, je ne pourrai pas. Alors, quel est le programme de vie du chrétien? Eh bien, Tout ça nous est révélé, tout ça, il y a toujours quelques textes qui nous le rappellent, le programme de vie du chrétien. Nous pouvons le prendre par exemple dans Luc au chapitre 1, au verset 75. Le programme de vie du chrétien, c'est « servir Dieu sans crainte ». En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, de temps en temps. Non, tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Luc 1, 75. Voilà le programme du chrétien. Impossible, dira-t-on. Impossible. Un jour, j'étais sur un bateau, on discutait longuement avec un catholique. Ce qu'il y a de bien sur les bateaux, c'est qu'on a le temps. Ça arrête le temps un peu. Maintenant, les avions, ça va trop vite. Et alors, on discutait tous les deux. Ah, il était catholique, il voulait être catholique, il était content d'être catholique. Moi, j'étais évangélique. Et alors, nous parlions de l'évangile. Bon, il connaissait certaines choses, mais à sa manière. Alors, il me dit, mais mon cher monsieur... l'évangile, mais c'est inobservable. On ne peut pas observer l'évangile. Ah, ben alors, je dis quoi? Alors, le Seigneur nous demande des choses qu'on ne peut pas observer. Vous dites que c'est inobservable. Il dit, c'est inobservable, c'est impossible. Alors, il me cite différentes choses, n'est-ce pas? Pas possible. Ah, bon. Et je lui dis, mais écoutez, monsieur... Alors, si le Seigneur nous a donné un évangile, des prescriptions, des conseils que nous ne puissions pas suivre, bah, alors là, il nous a trompés. Est-ce que Jésus nous a trompés? Il dit, non, monsieur, c'est que vous n'envisagez pas les choses sous le bon jour. Parce que si le Seigneur nous a dit que nous devions faire cela, vivre comme cela, n'est-ce pas, il n'y a qu'à relire, par exemple, le sermon sur la montagne, eh bien, c'est qu'il nous donnait en même temps la force et l'intelligence de le faire. Et je lui ai dit, si il faut que les lois soient écrites dans nos cœurs, est-ce que vous avez les lois de Dieu écrites dans votre cœur? Il m'a dit, je n'en sais rien. Alors, c'est ça, n'est-ce pas? C'est impossible, c'est vrai, mais l'impossible devient possible. C'est ça l'évangile. L'impossible devient possible. C'est bien ce que nous dit notre texte. Là, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son citoyen, son concitoyen, ni son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront ». Pas la peine de dire un ami chrétien, un frère ou une sœur, dis donc, il faudrait que tu connaisses l'Éternel. Mais non, le fait qu'il est chrétien fait qu'il doit connaître l'Éternel. Il doit connaître Dieu. Et cette connaissance intime, il doit l'avoir. Il doit être en communion avec Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, dit l'Écriture. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, versets 2 à 4. C'est-à-dire, afin que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons, non plus selon notre propre nature, notre nature d'autrefois, c'est ça la chair, mais selon l'esprit. Jésus n'a-t-il pas dit, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, rien ne vous serait impossible, rien. Vous serez impossible. Vous pouvez vivre l'Évangile. Vous pouvez le vivre. N'est-il pas écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est plus qu'il était autrefois. Ou alors là, n'est-ce pas, la vie chrétienne n'est pas réelle si il n'est pas une nouvelle créature. Il faut qu'il soit une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Et recueillons la promesse de Dieu, je ferai une alliance nouvelle. Alors entrons dans l'alliance nouvelle, et en conséquence, dans le sanctuaire céleste, et la grâce de Dieu abondera en nous. Et Paul le dit bien que ce qu'il a fait en tant qu'apôtre, ce n'est pas lui qui l'a fait, non pas à moi. J'ai fait beaucoup de choses en tant qu'apôtre, mais non pas à moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et tous me connaîtront. Voilà, ça, c'est dans les clauses de cette nouvelle alliance. Le principe en a été déjà révélé par Jérémie, et nous le retrouvons ici dans l'Épître aux Hébreux. La communion personnelle avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, c'est cela, connaître. Connaître, c'est cela, être en communion. En cela, donc, est l'accès dans le lieu très saint dont l'Épître va nous parler par la suite. L'accès dans le lieu très saint. Il faut que nous allions là. Le peuple d'Israël, avons-nous rappelé, se tenait respectueusement bien éloigné du sanctuaire quand le souverain sacrificateur, revêtu des habits sacerdotaux, s'avançait dignement vers le tabernacle. C'était un moment, il y avait la nuée sur le tabernacle, c'était un moment solennel, mais le peuple était là, à distance. Nous sommes invités à entrer dans le tabernacle. Alors, comment parvenir à cette communion précieuse dont parle l'Alliance, puisque tous me connaîtront, et puis personne n'aura à dire à son frère « connais l'Éternel », tous me connaîtront. Pas la peine de dire ça. M'est arrivé un jour en Algérie de constater que une sœur s'ingéniait à apporter des sortes de conseils et voire même des prophéties en particulier à d'autres. Elle mettait d'ailleurs les gens sans dessus-dessous. Hein. Elle allait leur dire, moi, le Seigneur m'a révélé que ta fille, ceci, cela, ton fils, ou toi, ou ton mari, etc. Bon, elle nous semait là vraiment, n'est-ce pas, des choses mauvaises. Et quand j'ai appris ça, j'ai eu avec elle, bien sûr, une entrevue un peu orageuse. Et puis je lui ai relu ça et je lui dis, personne n'a à dire à son frère, connais l'Éternel, tous me connaîtront. Dans la nouvelle alliance, vous n'avez pas de ces commissions à faire. Vous n'avez pas de commissions à faire. Vous pouvez vous exhorter les uns les autres au moyen de la parole. Vous y êtes invités à ça. Mais vous n'avez pas de commission. Je n'ai pas, moi qui exerce un ministère, je n'ai pas à aller dire à quelqu'un, dis donc toi, il faut que tu connaisses. Je dirai au peuple de Dieu, avec la parole, qu'il faut connaître. N'est-ce pas ? Mais je n'ai pas à apporter des commissions personnelles à l'un ou à l'autre. Personne ne dira à son frère, connais l'Éternel, parce que la règle est, dans la nouvelle alliance, que tous me connaîtront. Et il faut que chacun de nous ait à cœur de connaître Jésus-Christ. Pierre nous en parle bien, la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, c'est fondamental. Comment parvenir à cette communion précieuse? Eh bien, pour y parvenir, il faut en prendre le chemin. Il faut en prendre le chemin. Et prendre le chemin, nous sommes devenus chrétiens, nous avons cette connaissance, mais elle n'est pas peut-être assez profonde, suffisante. Alors, prenons le chemin pour y aller. Et ce chemin, eh bien, Thomas a demandé, lui, où Jésus allait, parce qu'il se disait, s'il s'en va à Rome, par exemple,
Bon, ben moi je vais y aller, je sais bien où c'est, je prendrai la carte et puis j'irai. Va. Dis-nous où tu vas et puis cela nous suffit, a demandé Thomas. Mais Jésus lui a répondu non, non, non. Il a répondu, je suis le chemin. C'est pas la destination. Je vais pas te donner la destination pour que tu y ailles toi-même, tu peux pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu veux aller au Père? Oui, c'est bien, mais prends le chemin. Il n'y a qu'un chemin, un seul chemin. Je suis le chemin. C'est le chemin étroit. C'est celui de la soumission de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est le chemin de l'amour. Voilà le chemin. Si quelqu'un m'aime, a dit le Seigneur, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus a mis sa volonté à l'unisson avec celle de Dieu son Père, et il est entré dans le tabernacle céleste au-delà du voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et ce qui rend possible l'entrée dans la nouvelle alliance, c'est ceci que nous avons vu dans notre texte, que Jérémie a proclamé le premier qui est retrouvé ici, « Parce que je pardonnerai leurs iniquités que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voilà la base, le fondement de tout, c'est que Dieu donne ce quitus, ce pardon. « Je pardonnerai leurs iniquités, je ne m'en souviendrai plus. » Et vous savez, ne nous avisons jamais de rappeler ou même de nous souvenir, nous, des péchés, des manquements, des autres. Souvenons-nous peut-être des nôtres, oui, ça peut se souvenir du pardon de nos anciens péchés. Mais surtout, n'allons pas trifouiller dans le passé des autres. Ça, c'est une chose qui déplaît souverainement à Dieu. Dieu ne peut pas supporter des choses comme ça. Puisque Dieu ne se souvient plus des péchés. Je ne me souviendrai plus. Et puis nous irions nous dire, oh, celui-là, oh, oui, il est converti maintenant. Bon, enfin, avant, hein, qu'est-ce qu'il faisait? Regardez, ça. Affreux, ça. Quelle attitude abominable, abominable, abominable. Nous n'avons pas à nous souvenir de ça. C'est pourquoi même les témoignages qui sont rendus, quelquefois, certains vont rappeler ce qu'ils étaient avant, mais il faut le faire avec une certaine mesure, ça, n'est-ce pas? Bon, on peut rappeler qu'on était dans une mauvaise situation, on était vraiment dans le péché, n'est-ce pas? Bon, on peut caractériser un peu, mais il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas que ça devienne, ça se fixe dans le souvenir des auditeurs, des autres chrétiens qui entendent cela, parce que c'est gênant. Nous n'avons pas à connaître les choses qui sont du passé de notre frère ou de notre sœur, parce que Dieu ne se souvient plus de leurs péchés ni des nôtres. Le pardon des péchés est là comme une base, une condition première que Dieu s'est imposée à lui-même. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà pourquoi j'écrirai les lois dans leur cœur, dans leur esprit. Voilà pourquoi ils me connaîtront. Parce que, à la base de tout, je pardonnerai leurs péchés. Et ce pardon, c'est l'œuvre du Fils et son sacerdoce céleste en conserve le fruit. Le Fils nous a justifiés, il nous a apporté le pardon, il nous a lavés, il nous a sanctifiés, mais il conserve le fruit par son sacerdoce. Et voyez combien nous avons besoin de ce sacerdoce, besoin de nous tourner vers le sacerdoce, besoin d'être là, dans le lieu céleste. C'est ça maintenant notre vie chrétienne, chers amis. Et nous l'avons prise à l'envers. Nous l'avons prise du côté matériel, du côté contingent. Nous l'avons prise au milieu du mouvement et des tribulations de ce monde. Nous l'avons prise du côté de nos petites préoccupations matérielles. C'est pas ça la vie chrétienne, c'est d'être là présent dans le tabernacle où Jésus-Christ exerce son ministère de souverain sacrificateur. À lui la gloire et l'honneur. Amen.